Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 3, Sullivan Le Postec ici, avec Dominique Montet et Émilie Flamand.
Bonjour.
Alors, c'est la fin de la saison américaine, la saison qui structure la vie de toutes les séries. Pire que tout, c'est aussi en approche la Coupe du Monde de foot, donc des heures et des heures d'antenne consacrées à des messieurs en short qui courent après un ballon. C'est peut-être l'occasion de rattraper des programmes que vous avez manqués. Ce mois-ci, la rédaction du village va essayer de se mettre d'accord pour vous conseiller des programmes à regarder et à rattraper pendant cette saison où voilà, vous allez pouvoir débrancher la télé. Par mon cas personnel, on va dire, ça fait assez longtemps que vous me dites que je devrais commencer à regarder Spooks, MI5 par chez nous. Alors est-ce que pour vous, enfin c'est le moment ou jamais, est-ce que je dois profiter de cette période de creux pour enfin regarder Spooks?
Émi,
ça fait une éternité que tu aurais dû profiter, quelle que soit la période, mais pas besoin de creux. Oui, c'est une série qu'il faut vraiment voir. C'est une très bonne série. Bon, il faut regarder le début, il faut regarder la fin actuelle, parce qu'on en a 8 saisons et la 9e est en cours de tournage. Mais les premières et les dernières saisons qui ont été faites sont vraiment très très bonnes. Le milieu est une petite baisse de régime. Il faut persévérer, on va dire.
Pour passer donc, à la suite. Donc, comme le titre indique, MI5, c'est les services secrets d'espionnage anglais. Voilà. En termes de ton, de style, entre James Bond et 24 heures chrono, la série c'est quoi en fait?
Alors, en fait, quand la série a débarqué sur l'antenne de la BBC, le but c'était clairement de faire une série du type de 24 heures chrono, dans le style, plutôt dans une recherche de la stylisation, du rythme, pas vraiment au niveau du thème. C'est beaucoup plus intelligent politiquement. Oui. C'est de toute façon écrit de manière complètement différente. La plupart des épisodes sont des épisodes indépendants. Ça, voilà, il y a pas de, c'est pas un high concept. C'est voilà, on suit les agents secrets du MI5. Alors le MI5, ça s'occupe de tout ce qui se passe en Angleterre, alors que MI6, ça s'occupe de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et les trois premières saisons sont vraiment excellentes. C'est du très très haut niveau. Ça baisse, comme le disait Émilie, après. Ça continue à baisser. Et ça remonte sur la 7e. Donc, il faut s'accrocher. Il ne faut pas laisser tomber. Parce que c'est vraiment une série qu'il faut voir. On va y revenir cet été. Parce que Canal+ va diffuser la 8e saison. On n'a pas encore les dates exactes. Mais visiblement, ça serait pendant l'été. Donc, on va y revenir avec Émilie, puis on espère avec Sullivan, si d'ici
là.
Mais moi, je n'ai aucun poids sur Sullivan, parce que les premiers articles que j'ai faits pour Le Village, ça parlait déjà de Spooks, j'en disais déjà du bien, et pourtant, il n'a jamais regardé, donc je n'ai aucun poids sur Sullivan Le Postec.
C'est pas complètement faux, parce que... C'est pas complètement vrai, pardon. Parce que j'ai quand même fait une démarche autant, c'est de récupérer les épisodes, donc ils sont quelque part là dans le tas à ma disposition.
Oui,
je vais quand même mettre la galette dans un lecteur, mais comme j'ai 10 000 galettes qui m'attendent avec des trucs à regarder, voilà.
Ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Non, sérieusement, Spook, c'est une excellente série aussi au niveau de la caractérisation. Donc, pour reprendre toujours le même schéma, saison 1 à 3 et à partir de la saison 7, parce qu'entre deux, il y a certains personnages un peu moins bien utilisés et définis.
C'est le moins qu'on puisse
Adam,
dire.
Adam, si tu nous entends, de là où tu es.
Par petits bouts.
Voilà. Non, mais c'est vrai que les personnages, c'est cet avantage-là aussi. Par rapport à 24, on a l'impression d'avoir du bourrin un peu par moment et des persos qui partent un peu dans tous les sens et juste de les mettre dans des situations rocambolesques. Là, on a une vraie évolution, on a une vraie finesse. Il y a, au niveau du dialogue, au niveau de leur évolution, tout. Et c'est vraiment des trajectoires différentes, des angles de vue différents selon les personnages. Il y a les vieux de la vieille, avec l'expérience, ils sont encore là, on se demande comment ils ont survécu d'ailleurs, parce que bon, il y a quand même pas mal de morts dans les personnages principaux dans la série.
Ça s'appelle des fins de contrat.
Ouais. tous ne l'ont pas vécu. Hein. Il y en a qui sont censés vivre quelque part ailleurs. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une série qui est très très bien écrite et très rythmée.
Ça, et avec des acteurs, pour la plupart, franchement fantastiques.
Et les saisons, la plupart du temps, font entre 6 et 10 épisodes.
Entre 6 et 10.
Ouais.
Non, la première, c'est 6. Donc, je vous incite à retourner sur les critiques du site qui sont complètes quasiment. Enfin, il y a toutes les saisons qui sont traitées. Il y a la saison 6 que j'ai honteusement survolée parce que j'en avais pas grand-chose à en dire.
Vous comprendrez.
Vous comprendrez pourquoi. Mais je vous incite réellement à la regarder. C'est plus qu'intéressant. Et si vous n'aimez pas du tout le football, comme mes deux collègues à côté de moi, ce qui n'est pas mon cas, je tiens à le dire, il y a 8 saisons, donc il y aura de quoi occuper le temps.
Et donc, comme on le disait, la saison 8 est passée dans l'année qui vient de s'écouler en Angleterre. Elle passera cet été sur Canal+. Ouais. Depuis 2-3 ans, régulièrement, en fait, MI5 est aussi diffusé l'été sur France 2. Ouais. Entre la première et la deuxième partie de soirée, ça dépend. Donc j'avoue que je ne sais pas s'ils reprogramment encore cette année, mais c'est assez souvent le cas, donc ça vaut le coup de regarder. La 9e saison est commandée en Angleterre, donc,
la
série continue. Il y a quelque chose qui a fait vraiment l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces dernières semaines. À peu près tout le monde, notamment chez les visiteurs du village, n'ont pas pu manquer cet événement. Tout le monde a entendu parler de Doctor Who. Nouvelle saison, nouveau showrunner, nouveaux acteurs.
Qui ?
Est-ce que...
Je connais pas trop.
Doctor qui ? Est-ce que c'est le moment de se mettre à Doctor Who si on n'avait pas commencé avant ?
Une fois de plus, la réponse, j'ai envie de dire, c'est... Mais il fallait déjà s'y mettre. Mais bon, oui, c'est un bon moment parce que c'est vrai que c'est une transition. C'est une transition entre la première ère, la reprise avec Russell T. Davis... Et maintenant, donc Stephen Moffat, donc c'est un nouveau docteur avec nouveaux compagnons, avec une nouvelle façon d'aborder les choses. On n'arrive pas en plein milieu de l'évolution d'un personnage. Il a son passé, mais comme il l'avait aussi pour ceux qui n'ont récupéré la série qu'en 2005. Donc ça se reprend très facilement à ce niveau-là.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien voir avec Doctor Who, c'est que quand on ne la connaît pas, ça peut faire un peu peur, parce qu'on se dit, la série, elle dure depuis 1963, donc ça peut sembler un peu hermétique, mais le gros avantage de Doctor Who, c'est que sa cible prioritaire, c'est les enfants de 8 à 15 ans, on va dire, et puis les grands-enfants que nous sommes, voilà. Qui regardons aussi. Mais du coup, les générations d'enfants de 8 ans, elles se renouvellent tous les ans, basiquement, donc il faut que la série, elle sache perpétuellement les reséduire et réinventer un nouveau public qui n'a pas vu les saisons précédentes, encore moins les saisons historiques en noir et blanc, etc. Donc la série vraiment fait ça très bien de constamment, ne serait-ce que pendant l'ère Russell T. Davis, c'est-à-dire l'ère précédente, les cinq années qui viennent de s'écouler, Russell T. Davis tout simplement veillait à ce que chaque saison il y ait un changement dans la distribution principale. Entre la première ou la deuxième, on changeait de docteur, et autrement le compagnon changeait, ce qui fait qu'à chaque fois il y avait un nouveau personnage qui arrivait, un nouveau point d'entrée. Et puis donc là, cette année c'est ça, puissance 10, puisqu'effectivement tout change et c'est vraiment une nouvelle époque de la série qui commence. Alors elle n'oublie pas son passé, et pour les fans c'est génial, et pour les non-fans c'est génial aussi parce qu'ils vont devenir fans très vite, et c'est passionnant à chaque fois qu'il y a un truc d'aller pouvoir explorer un peu sur internet et de rendre compte que c'était une référence à ça ou à ça ou ça ou ça, mais c'est vraiment super super facile d'accès.
Oui, puis c'est une série qui en plus, enfin c'est une idée de génie de se dire que le personnage se remet à zéro à chaque changement de comédien. Enfin, quand on se dit, quand on pense série des années 60 qui perdure encore aujourd'hui, alors je sais pas si c'est le cas. Pour ça au commissaire Moulin, donc on s'imagine le même acteur qui a 97 ans, qui doit jouer un mec de 50, pas du tout crédible, là au moins on remet à zéro à chaque fois.
Au moins ça rentre dans les
politiques. Peut-être peut-être le retour du commissaire Moulin bientôt.
C'est donc, Navarro qui avait déjà commencé, voilà. Il est toujours commissaire à 80 ans et demi.
Voilà, c'est... Et au-delà de ça, c'est, oui, je pense que c'est le bon moment pour s'intéresser... au Doctor Who, si c'était pas encore le cas avant, avec ce changement d'équipe et ce changement de comédien. Alors, c'est pas que je fais la pub de Moffat par rapport à Russell T. Davies, c'est que c'est bien de se sentir imprégné au début de quelque chose. Et après, ce que je vous invite, c'est de repartir à rebours et de regarder ce qui a été fait avant, bon, pas forcément dans les années 70 ou 80, mais au moins ce qui a été fait par... Par Russell T. Davies, c'est, on l'a dit tellement de fois que j'ai peur du matraquage, mais c'est tellement intéressant qu'il faut impérativement se pencher dessus.
Donc c'est des saisons de 13 épisodes, donc ça fait un peu d'épisodes, mais
avec quelques spéciaux. Et...
Voilà, depuis 2005, ça représente une soixantaine d'épisodes, donc c'est pas insurmontable. Il y a sur la saison 5, il y a 7 épisodes, je crois, qui sont passés jusqu'à oui. aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous êtes convaincu pour l'instant par cette saison? Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler toutes les semaines. Sur le village, vous, est-ce que ça vous convainc jusqu'à présent?
Moi, j'ai une petite base de régime sur les derniers, où je suis un petit peu moins dedans. Enfin, j'aime bien certains points sur l'évolution des persos, peut-être un peu moins dedans sur les histoires des derniers, sur l'arc vraiment scénaristique de l'épisode. Mais oui, par rapport au docteur en lui-même, par rapport à ce qu'il a voulu faire du docteur, notamment, et à son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne. Yeah. Tout ça, oui, c'est quelque chose qui reste très bien.
Moi, je suis complètement sous le charme. Je suis moins avancé.
Karen,
si tu entends ce podcast, c'est
sous
pour
le charme était l'expression appropriée, vous l'avez bien compris.
Non, voilà, non, mais le duo de comédiens fonctionne excellemment bien. Pour moi, Karen Gillan est du niveau de Catherine Tate dans un registre complètement différent, mais qui remet en cause le docteur constamment. C'est bien comme duo, et puis voilà, ils sont jeunes, ils sont
sexy.
Beaux. Ah oui, on va pas bouder le plaisir.
Bon, et bien moi, évidemment, vous l'avez vu aussi, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Effectivement, là, on est dans le creux de mi-saison qui est assez habituel. Hein. Ouais. C'est un peu le moment où ils casent leurs épisodes qui sont un peu plus un peu plus faibles. J'ai quelques interrogations par rapport au développement des personnages et à l'attachement, à l'émotion qu'ils dégagent. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est pas tout à fait satisfaisant. Ça allait du côté du docteur, pour l'instant, je trouve que ça allait pas tout à fait du côté d'Amy. Mais en même temps, c'est exactement ce que la série est en train de faire en ce moment même avec ses épisodes, c'est de développer le personnage d'Amy et de revenir sur son background et sur qui elle est en tant que personne, enfin émotionnellement. Donc du coup, je pense pas que ce soit un problème, c'est un arc scénaristique, c'est la manière dont ça a été développé cette année, quand Amy décide d'embarquer avec le docteur à la fin du premier épisode de la nouvelle saison. C'est à la veille d'un événement important, alors comme on s'adresse aux gens qui n'ont peut-être pas suivi, j'en dis pas plus, ceux qui ont vu savent à quoi je fais allusion. Mais du coup, voilà, ces premiers épisodes, c'est une fuite pour elle, c'est des vacances, une façon de s'échapper. Donc c'est assez normal que, voilà, que tous ces éléments-là aient été mis de côté et que du coup on y revienne et qu'on les développe plus maintenant en amenant un trio au niveau des personnages.
Oui, et puis malgré tout, ça fait que, enfin, on est quand même sur une notion de reboot, donc c'est un peu le principe d'une saison 1 pour certaines séries. Qu'il y ait des éléments qui soient placés, que d'autres se mettent en place seulement et qu'on n'est que milieu de saison, enfin, c'est logique aussi que certains des persos ne soient pas encore complètement construits et qu'on les voit encore à mi-chemin, quoi. Le docteur, par contre, j'étais assez bluffée de la façon dont il a très vite été mis en place et très justement. Ça m'a bluffée.
C'est hallucinant. Enfin, le premier épisode, The Eleventh Hour, dure une heure. Au bout d'une demi-heure, il est le docteur, sans aucune équivoque, sans aucune remise en question. Il s'est approprié le personnage. Il est, en tant qu'acteur, génial. Il a un jeu physique incroyable. C'est rare, les acteurs qui ont un vrai jeu physique.
Le mec, il doit être vidé le soir quand il rentre chez lui, quoi. C'est fou.
C'est assez épatant, un coup de casting assez génial.
Enfin, non, on y reviendra sûrement pour un bilan de saison, j'imagine, prochainement. Mais moi, j'ai été réellement bluffé par le rythme, et surtout du premier épisode. C'est ahurissant, la vitesse à laquelle tout va, mais sans avoir l'impression d'être perdu. Et alors après, on me dit que il y a eu des baisses de budget entre les saisons 4 et les saisons 5. Je ne l'ai absolument pas vu. Je ne l'ai absolument pas remarqué. Alors, je ne sais pas si c'est l'évolution technologique qui permet de compenser ou si c'est juste, je ne sais pas. Je ne sais pas tout ça.
Les salaires des acteurs.
Peut-être aussi. Ça coûte moins cher, c'est
ça
sûr.
Ça coûte moins cher à Matt Smith qu'à David Tennant.
Mais globalement, pour moi, je ne sens absolument pas la différence. C'est même une différence vers l'au-dessus.
Ouais. Je serais curieux de savoir. J'arrive pas. Je ne sais pas si l'info est disponible quelque part. J'aimerais bien savoir combien c'est de budget en fait, un épisode de Doctor Who, parce que je serais très très curieux de comparer des budgets français en fait.
Oui, tout à fait. Parce que ça, on peut comparer.
Exactement, ce serait. Enfin, il y a une vraie. Voilà, en termes d'échelle, c'est complètement comparable. Et du coup, j'imagine que Doctor Who est quand même une série assez chère. Donc je pense que c'est peut-être. Et aussi parce que c'est un énorme succès, c'est sûrement un peu plus cher que les séries premium de Canal+, qui sont à 1 million d'euros d'épisodes. Mais a priori, c'est BBC, enfin, il y a en termes d'une vraie récession économique, ça ne peut pas être beaucoup plus cher.
Ça peut pas être beaucoup plus cher.
Et il y a tellement de choses à l'écran, des vraies interrogations. Enfin, si j'étais producteur français, je m'intéresserais vraiment à savoir comment ils produisent ça, avec quelle économie, comment est-ce qu'ils arrivent à en mettre tant à l'écran, alors que chaque épisode de Doctor Who se passe dans un nouvel univers. Il y a quelques décors de studio, notamment le TARDIS, quoi, mais tout le reste, il faut réinventer des décors, des costumes, et réinventer un monde à chaque épisode. C'est assez hallucinant.
Oui, puis ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est voir au niveau des différences de budget, comment on peut comparer l'apport d'une vraie culture télévisuelle et d'un vrai système télévisuel qui existe depuis des dizaines d'années à un autre qui se crée et à quel point ça peut plomber un budget d'être dans un système qui balbutie en fait.
C'est ça, pour le coup, on est vraiment avec Doctor Who dans une production industrielle, avec toutes les économies d'échelle que ça peut inclure et tous les amortissements qui sont rendus possibles par les exports, par les produits dérivés, qui sont des choses qui vraiment balbutient chez nous. Allez, on arrête un petit peu de parler du Docteur, évidemment, on aura maintes fois et très longuement l'occasion d'y revenir. Ne vous inquiétez pas, mais on va parler d'un autre événement qui n'est pas tout à fait sans rapport avec ça. Tout bientôt à Paris, au mois de juillet, il va y avoir un festival sur en fait, les cultures de l'imaginaire. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelques liens avec notre sujet précédent. C'est le Comic-Con, une convention qui a lieu, donc voilà. Festival des cultures de l'imaginaire, c'est le sous-titre du festival. Il y a toute une programmation de séries qui va se faire dans ce Comic-Con, qui effectivement se développe en parallèle de la Japan Expo, qui elle existe depuis 11 ans, si je me souviens bien. Le Comic-Con, c'est la deuxième saison. La première, c'était un peu un test l'année dernière. Et là, il y a une vraie montée en puissance cette année. Et alors, le programme va être encore annoncé dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce nous allons être mangés. Mais néanmoins, il y a un premier événement. Il y a un premier événement qui a déjà été annoncé. On sait que toute l'équipe d'Hérocorp sera là pour un grand plateau. Et donc nous, c'était l'occasion de vous dire que Comic-Con a lieu et qu'il faudra être là à Paris du 1er au 4 juillet prochain pour assister à cet événement dans sa globalité. Mais aussi donc qu'il y avait cet événement HeroCorp qui s'organisait, donc pour pouvoir profiter pleinement de ce panel et de cet événement, il faut tout simplement avoir vu la série d'ici là et on peut que vous la recommander très chaudement.
Et de plus, donc ce podcast a un but pédagogique, vous saurez comment il faut bien prononcer Comic-Con. Voilà, faites attention, vous n'allez pas voir un spectacle de Laurent Gérard.
HeroCorp.
Pour revenir à HeroCorp, ouais. Oui, HeroCorp, donc HeroCorp, la saison est dispo en DVD.
19,90€.
Voilà. N'hésitez pas chez tous les bons revendeurs.
Je dois dire que c'est un truc sur lequel il faut. Enfin, moi je fais de la pub de manière complètement décomplexée. HeroCorp, c'est quoi ? C'est une série qui est financée principalement par Comédie avec un apport de France 4 qui la diffuse en deuxième fenêtre. C'est de la série donc du câble. Et de la TNT, et pourtant c'est vraiment ambitieux, c'est parce que c'est du 26 minutes, c'est pas de la short, c'est pas de la
short com. 15 fois 26 minutes par saison.
15 fois 26 minutes par saison, donc c'est assez exceptionnel, et en termes d'économie, c'est extrêmement ardu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une thune pour faire HeroCorp. Et donc franchement, les 3,50€ de budget qu'ils ont, ils sont à l'écran.
C'est même pas les 3,50€, ils ont 3,50€, mais t'as l'impression d'en voir.
Et t'as l'impression qu'il y en a 15 à l'écran, c'est ça.
C'est Simon Astier qui nous disait dans la première interview qu'on a réalisé de lui que, en gros, pour un 90 minutes de TF1, ils font une saison d'HeroCorp.
15 fois 26 minutes
contre 1,90 minutes.
Alors... Avec une équipe qui est quand même, je pense, il y a une quarantaine de rôles maintenant en tout.
Oui, voilà, oui.
C'est pas vous aurez plus de détails plus tard.
C'est pas deux personnes dans un appartement.
Mais oui, il y a du people dessus, il y a du boulot. C'est quasiment 9 mois de l'année consacrés à HeroCorp pour ces gens-là. Donc, du tournage sur 2 mois, il y a de quoi faire, quoi.
Donc c'est vraiment une série à soutenir, c'est une série où il faut acheter le DVD, si vous achetez qu'un seul DVD de série de cette année, moi je dis que ce serait bien que ce soit la saison 1 d'HeroCorp. Alors une petite chose quand même...
Achetez-en deux, il y a la saison 2 qui sortira un peu plus tard cette année, donc il faudra en acheter deux.
Deux exemplaires de chaque, voilà. Parce que les DVD ça s'use.
Exactement. Une petite chose quand même, donc on l'a finalement un peu suggéré, mais la saison 1 d'HeroCorp, nous on a vu la 2, on est plein d'enthousiasme, etc., si vous ramenez tout cet enthousiasme-là, que vous regardez la saison 1, ça va peut-être vous faire un choc. Ouais. Parce que quand même, la saison 1, elle est sympathique et on l'avait bien aimée.
Oui.
Mais c'est une saison de mise en place. C'est une saison où ils testaient, où ils trouvaient c'était quoi le ton et l'univers de la série.
Ils n'avaient pas carte blanche sur tous les points. Hein. C'est-à-dire que vous, quand vous regarderez la saison 1, vous allez peut-être trouver des baisses de rythme, etc. Ouais. Mais surtout... C'est surtout aussi dû au fait que, par exemple, sur la saison 1, Simon Astier ne pouvait pas trop faire de feuilletonnant. Il n'avait pas trop le go pour le faire, il en a fait un peu, il a essayé d'en faire, mais c'est très léger par rapport à la saison 2, et la saison 2 est très très largement au-dessus.
La saison 2, c'est un spectacle assez incroyable. Ça oui. commence, le premier épisode commence, vous êtes dedans, et vous n'avez qu'une envie à chaque fois pendant 15 épisodes, c'est de voir celui d'après. Il y a une super progression dramatique qui est vraiment très forte, quoi. Et pour le coup, enfin, et donc.
Ça reste drôle.
Ça reste drôle. Très drôle. Les personnages sont vraiment chouettes.
C'est très drôle et il a une vraie capacité à éveiller ce que disait Sullivan, cette attente chez le spectateur. Et c'est quelqu'un qui aime rester à la fin. Simon Astier, c'est quelqu'un qui aime rester à la fin d'un épisode juste sur sa fin, quoi. Avoir une scène et. Ah, ça coupe, mais on a juste envie d'insulter la personne qui l'a fait. Et il en est fier de ça, il en est très fier. Et c'est vraiment le cas sur HeroCorp. C'est une série qui provoque plein de théories entre les gens qui la regardent. Enfin, ça, je sais que ça faisait très longtemps, moi en tout cas, que j'avais pas eu l'occasion de regarder une série qui avait autant fait parler d'elle chaque personne autour de moi à qui je l'ai conseillé et qui s'y est mise. Mais après, on en avait des discussions pendant des heures au cours de la saison 2. Ah, mais est-ce que tu crois que ça va se passer comme ça ? Non, mais je pense que machin, en fait, c'est ça. C'est juste du jamais vu dans le secteur, quoi, en France.
La saison 1, ça reste encore un peu dans l'anecdote amusante, la façon dont c'est traité.
Il y a des côtés un peu film de potes.
Voilà, c'est très plaisant. C'est très plaisant. La saison 1, ben, on en a parlé ici. Globalement, on l'a aimé, bien sûr, malgré ses défauts. Mais justement, on voyait le potentiel derrière. Et le potentiel, il explose vraiment en saison 2.
C'est-à-dire que ce qu'il y a aussi, c'est que vous nous trouvez peut-être un petit peu dur sur la saison 1, mais en même temps, quand on voit le niveau de la saison 2, c'est vrai que la saison 1, du coup, prend un coup...
un coup de vieux, en fait. C'est
ouais, enfin, disons de moins achevé, parce que la saison 2 est tellement...
Tellement aboutie.
Ouais, ouais, c'est flagrant.
Et on l'a déjà dit, c'est le truc le plus hallucinant de l'histoire, c'est que les deux saisons, elles ont été un peu lancées comme ça, d'affilée. Enfin, il n'y a pas eu d'attente de résultats, etc., avant de lancer la saison 2. Ça veut dire que la saison 2 s'est faite avec exactement le même budget que la saison 1, ce qui juste est absolument incroyable en tant que téléspectateur. On a l'impression qu'il y a eu au moins un doublement de budget entre les deux saisons, tout simplement parce qu'ils ont appris à maîtriser... leur prod et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en termes d'effets, etc.
Oui, puis en termes d'effets spéciaux, il faut dire aussi clairement qu'ils ont changé d'équipe entre la première et la deuxième saison. Quand vous passez d'une première saison où il y a un personnage qui maîtrise le feu, où il pose sa main sur une boule de pain crue, la caméra remonte, elle baisse, le pain a monté, il y a une trace de main dessus, c'est ça les effets que vous avez dans la saison 1. À ce que vous avez dans la saison 2, je vous dis rien, mais globalement, c'est énorme ce qu'ils arrivent à faire. Il y a un type qui vole, on y croit, c'est filmé de telle manière à ce que ça soit crédible.
Il y avait déjà des bons trucs sur le film, par exemple L'Homme Invisible dans la saison 1, c'était bien géré, je crois.
C'est une super idée. L'Homme Invisible, c'est une super idée par rapport à pas de moyens. Ça, ouais. Je reste convaincu de ça, et puis pour en avoir discuté, c'est clair. C'est, on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment faire un homme invisible, parce qu'il faut faire bouger les objets, donc on va faire un homme immatériel. Et l'idée est géniale. Puis en plus, bon, voilà qui y caste. Quoi. C'est, De Niro, c'est quand même...
Sur HeroCorp, il y a un truc, vous verrez même sur la saison 1, c'est, on sent que cette série, que les gens qui y participent, aussi bien dans l'écriture que dans la réalisation, que dans les comédiens, c'est des gens qui y sont parce que le projet leur plaît, le projet leur tient à cœur, c'est des gens qui vont avec leur trip. C'est une série qui n'est pas faite pour les thunes, parce que si on fait HeroCorp pour les thunes, ben on repart, parce que clairement, il n'y en a pas. Mais c'est une série qui est faite par des gens qui sont là parce qu'ils aiment le programme, parce qu'ils aiment ce que devient le programme. Et et ça se sent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font et qui le font avec un grand plaisir. Quoi. Et c'est de la pure générosité.
Et puis il y a d'excellentes lignes de dialogue. Ouais. On pourrait ressortir certaines choses au dîner. Ça sera parfait.
Je dois juste citer une ligne de dialogue parce que j'ai des collègues qui me harcèlent pour le citer en réunion client, mais c'est pas trop possible. Donc je me permets de la citer en réunion de rédaction. On n'est pas là pour se détendre la quiche. C'est la guerre.
Sur cette note-là, on va conclure cette petite première partie. On a évoqué jusqu'ici en fait les séries, les trois séries du coup que la rédaction du Village vous conseillait absolument de rattraper si vous ne les aviez pas regardées jusqu'à présent. Et il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'était de savoir, y compris pour nous, ce que la BAFTA, la British Academy of Film and Television Arts, nous conseillait à nous par le biais de ces awards. La cérémonie de remise des prix des BAFTA va avoir lieu le 6 juin prochain et du coup les nominations sont connues, donc on avait envie de passer un petit peu en revue ces nominations pour savoir selon le BAFTA quels étaient les meilleurs programmes sériels passés à la télé anglaise qui, on vous l'a dit plusieurs fois, est pour nous la meilleure télé, la meilleure fiction télé d'Europe si ce n'est du monde actuellement. Et savoir voilà, quels étaient selon eux le top de la crème, à voir absolument. Alors c'est intéressant aussi parce qu'en fait on va voir assez vite s'il y a des choses que nous-mêmes finalement on n'a pas vues. Mais c'est, du coup les BAFTA nous donnent l'occasion de nous dire tiens sur ça il faudra peut-être...
Et vous allez voir, on aura l'air vachement moins pointu que d'habitude.
Mais je trouve ça intéressant, c'est révélateur aussi finalement que... Qu'il y a
énormément de choses.
Qu'il y a quelque chose à créer en Europe en termes de... De réseau pour mettre en valeur ce qui existe et ce qui est bien, quoi. Voilà, c'est ce qu'on modestement on essaye un petit peu de faire au Village, mais on voit que c'est vraiment pas facile à faire. Donc voilà. Alors on va commencer par les nominations dans le domaine des séries, des dramas du BAFTA. 4 nominations dans chaque catégorie. Les 4 séries nominées par les BAFTA sont d'abord Being Human. Oui. Alors Being Human, c'est une série de Toby White House, je suppose que ça doit se prononcer comme ça, qui a écrit des épisodes pour Doctor Who, un cette saison et un qui s'appelait School Reunion dans la saison 2. Et c'est une série fantastique qui passe sur BBC 3, la troisième chaîne, donc la chaîne numérique et un peu le France 4, plus jeune mais aussi un peu plus fauché. Donc c'est une série économe, enfin c'est pas une série où il y a beaucoup d'argent, mais c'est une série intéressante, fantastique, trois colocs, un loup-garou.
Alors un loup-garou, un vampire et une fantôme.
Alors en fait, ce qui s'est passé pour Being Human, ils ont tourné d'abord un pilote, mais un vrai pilote dans le sens où un épisode zéro, où on diffuse ça à l'antenne, on voit si ça prend avec le public ou pas. En l'occurrence, ça a plutôt bien pris, ils ont lancé une série derrière, mais il y a eu un changement de personnage, un recastage en fait, de personnage, et aussi une réorientation un peu thématique, un peu d'écriture. Et donc il y a eu 2 saisons, je crois que c'est des saisons de 6 épisodes, même 8, 6. Il y a eu 2 saisons, dont la dernière est passée en janvier, donc c'est celle-là, cette saison 2 qui est nominée par les BAFTA. Ça t'a plu, toi, Being Human, Emily?
Moi, j'ai pas encore vu la 2. Je suis restée à la 1 pour l'instant. C'est une série qui est sympathique, qui se regarde bien. C'est pas non plus le chef-d'œuvre, c'est pas le truc que vous allez attendre, je pense, toutes les semaines ou pendant un an. Mais c'est vrai que c'est 3 personnages assez sympathiques, pas trop caricaturaux, même si on est quand même dans un vampire à loup-garou et un fantôme vivent ensemble. C'est forcément un peu classé au début, on va dire, comme série. Mais qui a un côté plus problématique de série ado, comme on pouvait avoir à une époque, enfin mon époque d'ado, avec les Buffy, les Dawson, certains comprendront pourquoi je dis ça, etc. Donc plus une orientation un peu de jeunes adultes qui débarquent dans la vie et qui ont en plus un petit côté un peu embêtant à gérer, mais avec toujours la personne, bah, elle qui est invisible, mais qui pourtant en gros serait celle qui serait la plus normale sinon. Mais avec leurs problèmes de relation, lui, le loup-garou, qui est timide comme pas possible, qui rejette complètement ce qu'il est et qui a beaucoup de mal à vivre avec les gens autour. Le vampire, avec ce que ça veut dire aussi de passer tourmenté de gens qui peuvent ressortir. Donc c'est vraiment un prétexte, en fait, ce côté fantastique, et il est bien géré. Franchement, c'est une série qui se regarde facilement et qui est plutôt agréable.
Deuxième nominée dans la catégorie série, une série dont on a beaucoup beaucoup parlé dans l'année, dans les derniers mois. C'est une série qui a fait pas mal de buzz, qui est une série D4 et qui est Misfits. Misfits, c'est une série sur, je crois que c'est 4 les personnages qui sont plus ou moins, enfin ils ont condamné des travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça.
Là, au départ, ouais, ils sont même plus, mais oui, l'idée c'est ça, c'est des ados. Vous prenez des ados, un panel d'ados un peu en tout genre, mais qui font des conneries, donc aussi bien le gars de la cité que la fille qui pense qu'à être en soutif et qu'à draguer des mecs, que le bourrin, que le mec asocial. Tout ça se retrouve au tout début de l'épisode, en gros, pour les travaux d'intérêt généraux, avec un gros costaud qui doit les manager. Un orage électromagnétique tombe sur la ville, littéralement. Alors, j'avoue que là, on est un peu perplexe au début. Et ils se retrouvent avec des pouvoirs qu'ils découvrent donc chacun au cours du premier épisode, avec ce que ça implique, parce que certains ont des pouvoirs faciles à vivre et plutôt sympas, d'autres non. Certains le découvrent tout de suite, d'autres non. Et comme on s'en doute aussi, l'orage électromagnétique a pas eu un effet que sur eux. Donc au fur et à mesure de la saison, on va voir avancer des choses. Les événements d'un... Il se passe quelque chose, je peux pas trop en dire, mais il se passe quelque chose dans le premier épisode qui va les poursuivre tout au long de la saison. Et en même temps, donc cet orage, lui aussi, a eu d'autres conséquences. Donc ça, c'est une série qui est assez barrée au début, parce que rien que la scène de l'orage électromagnétique, j'avoue que c'est...
Non, je trouve ça super crédible, moi, il n'y a pas de problème.
Non, et puis ça a vraiment le côté british sur ce côté-là, aussi bien sur les gueules, et puis ne serait-ce qu'ils sont là pour faire leurs travaux d'intérêt généraux, mais il n'y a pas un chien dans le secteur. On a l'impression qu'ils sont les seuls quand on regarde le truc au début. Et ça, c'est un peu bizarre, mais non, ça se défend aussi avec le côté british, un peu trash qu'il peut y avoir sur certaines scènes. Enfin, ils osent y aller. Ils se posent pas trop de questions, ils se réservent pas trop. C'est ça qui est sympa dedans.
Alors, la troisième série de nominée, on en a déjà longuement parlé au début, c'est Spooks. Donc, nominée pour sa dernière saison.
Oui, mais vu que c'est la seule que j'ai regardée, on va en reparler quand même.
vas-y.
Non, on en a déjà suffisamment parlé.
Bon, en tout cas...
Plongez dedans, allez-y.
Ouais, cette dernière saison, c'est mérité d'être nommée, c'est vraiment une bonne saison.
Non, c'est vraiment une très bonne saison. Mais même la saison précédente était déjà très bonne. Il y a vraiment eu...
Et le quatrième nominé, c'est une série qui s'appelle The Street. C'est une série dont on a beaucoup moins entendu parler. C'est probablement aussi parce que c'est une série qui est beaucoup plus british,
oui,
par essence. Donc, en fait, c'est un soap opera. Ça se passe, c'est les habitants d'une rue ordinaire. Voilà. Donc, il n'y a pas plus de concept que ça. La troisième saison, c'est des saisons de 6 épisodes à chaque fois. La troisième saison, qui donc là est nominée au BAFTA, est passée l'été dernier. Ça passe sur BBC One. Mais c'est produit par ITV Studio. Donc, c'est. Frères et ennemis, ça s'entendre.
Ouais. Pour faire de l'argent, ils s'entendent toujours.
Mais ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus marqué british. Hein, c'est...
Dans les aspects pas forcément toujours positifs.
Ouais.
Autre catégorie, la catégorie sitcom, les comédies, toujours 4 nominées. On va passer très vite sur, en gros, les deux que personne de nous n'a vu et qu'on connaissait assez peu. La première, c'est Miranda. Qui passe sur BBC Two, centré sur...
C'est quoi, c'est Maggie, mais avec un personnage d'un mètre 95, quoi.
C'est un peu... C'est Marianne James, héroïne de sitcom. Mais encore que Marianne James, elle est plutôt jolie, finalement. C'est pas forcément très méchant, cette pauvre artiste. En fait, moi, la seule chose que je suis de Miranda, c'est que j'ai vu un talk show anglais que j'ai regardé la semaine dernière. Il y avait l'actrice qui joue Miranda, et dont j'ai perdu le nom, et je vais pas le chercher tout de suite, qui était assise sur un canapé à côté de Jennifer Lopez. Et si vous voulez, il y a comme un choc culturel entre le monde de l'entertainment anglais et le monde américain. qui est résumé à ces visuel. Deux personnes assises sur ce canapé, c'est très visuel.
T'avais peur qu'elle la mange.
Un peu, ouais. L'autre série, c'est Peep Show, donc une comédie aussi, de Channel 4. Voilà. Oui, c'est super british. Je crois qu'on a regardé la photo.
Je l'ai encore devant les yeux là, à l'heure actuelle. Et il y a un personnage qui a l'impression qu'il mange ses lèvres et l'autre qui prend un air dégoûté. C'est bien trashouille. Enfin, ça a l'air bien trashouille.
Les deux acteurs bien dépressifs, maniérés à la british,
voilà.
Postés sur un canapé pourri dans un appartement qui a l'avenant.
Tout le côté british qui, moi, me donnait une fausse idée des séries britanniques il y a 10 ans, quand on voyait les Benny Hill ou autres avec l'humour... voilà, là, on y est un peu, quoi, en gros. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai eue quand j'ai zioté un peu cette série, parce que j'ai vu des extraits, mais très franchement, oui, c'est...
Émilie a vu des extraits, nous, on joue juste sur une photo, c'est vraiment dramatique, finalement, mais bon...
Voilà, ça, c'est toute la...
Le sens aigu de la critique du village.
Voilà. Moche sur cette photo, on va pas regarder. Voilà.
Allez,
merci de venir.
Comme quoi, une bonne photo de promotion joue beaucoup sur la communication.
Ah, ça.
Et en l'occurrence, des photos de promotion pourries à la télé française, il y en a pas mal. Donc, vous avez vu un peu l'effet que ça fait. Imaginez-vous le mal qu'on a dit de votre série quand on a vu la photo promo pourrie arriver. Donc, l'année prochaine, faites un effort. Allez, troisième série nominée, si j'invente des mots. pour une fois que j'invente pas des prénoms, fait. Troisième série nominée, c'est In Betweeners.
Oui.
Ça, c'est une série dont on a quand même pas mal parlé. C'est une série D4 aussi. Sitcom avec des ados aussi un peu british mais beaucoup plus accessible aussi,
ouais là on est c'est déjà vachement plus rigolo parce que plus léger et c'est vraiment ado, donc là en gros c'est un ado qui débarque dans une école après le divorce de ses parents qui était plutôt on va dire habitué à des écoles un peu classiques un peu bon chic bon genre et qui se retrouve dans une école anglaise plus habituelle avec un peu de tout. Qui bien sûr sous son petit côté un peu coincé et un balai dans les fesses, d'ailleurs il le représente très bien parce qu'il est toujours droit comme un piqué ce pauvre gars, a du mal au départ à se faire des amis. Il s'incruste, mais réellement s'incruster dans une bande de potes qui est un peu côté outsider aussi parce que ils sont trois, parce que comme tous les ados ce qu'ils espèrent c'est de draguer une gonzesse et réussir à la mettre dans leur lit, mais ils ont aucune idée de ce qu'ils peuvent bien faire avec ni comment ils doivent s'y prendre et ainsi de suite. Donc on est sur toute la problématique ado, mais tout le côté maladroit, gag que ça peut engendrer, parce que voilà, parce qu'ils vont se prendre une cuite, ils ont décidé d'aller boire de l'alcool, ils arrivent à trouver des moyens pour acheter de la picole, mais ils se retrouvent dire des conneries, ils boivent, parce qu'au début ils disent que ça va les rendre plus cool pour aller draguer les filles, ça finit très très mal, surtout pour la fille, la pauvre, elle finit dans un piteux état à cause de ça. Enfin bref, c'est très gag, mais c'est assez sympa à regarder, franchement, ça se regarde bien aussi, hein, c'est bien marrant.
Est-ce que je me trompe pas, c'est la deuxième saison qui doit être nominée? Je pense qu'ils ont passé la deuxième
cette année. Hein. La deuxième était en cours il y a 15 jours, en tout cas quand je suis passée.
D'accord, ok. Moi j'ai dû voir des épisodes de la première saison. Alors je suis pas un gros client des comédies, en fait je regarde très peu de comédies et de sitcom, donc ça participe du fait que j'ai pas accroché plus que ça, tout en reconnaissant que c'était bien, que c'était bien fait, etc. Mais simplement je suis pas super client de ça. Moi, pour que j'accroche à une sitcom, il faut que ce soit une sitcom qui mélange avec du drama, des trucs comme
voilà, Friends. On est franchement ado quand même, hein, sur la thématique, hein.
Et la quatrième série, c'est une série dont là tout de suite on va avoir des personnes qui vont mieux la connaître, ça va être plus simple, même si moi je ne la connais pas. Mais mes collègues du village ont commencé à m'inciter très fortement à la regarder. Là aussi j'ai récupéré les épisodes, donc c'est qu'une question.
Il regardera dans 3 ans.
Exactement. Et donc cette fameuse série dont je n'ai pas encore cité le titre, c'est The Thick of It, ça passe sur BBC 2, c'est une comédie politique. J'en avais. Pour le coup, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par vous, il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Mais depuis, j'en ai entendu parler plus régulièrement. C'est une série qui commence à faire à buzzer un petit peu, sachant qu'elle a déjà donné lieu en matière d'adaptation cinématographique.
En fait, le premier contact entre le public français et The Thick of It s'est fait par ce film-là qui s'appelle In the Loop.
Qui est sorti l'année dernière.
Qui a eu un bon succès critique. Après, je ne sais pas ce que ça a donné au niveau des entrées, ça a dû être assez anecdotique. Mais
Et qui faisait le pont, le film faisait le pont en fait entre la série à proprement parler très anglaise,
voilà.
Et l'exporter un peu vers les États-Unis, les États-Unis, histoire de.
On a des comédiens américains qui interviennent dans la série, parce qu'en gros il y a un problème entre le monde politique anglais et le monde politique américain. Donc,
parce que la série, en fait, on suit un spin doctor ou un assistant. C'est...
Bah, en gros, y a un, ça se passe dans un ministère. C'est le chef de la com du gouvernement. Il y a un ministère, alors je ne sais plus exactement, c'est le ministère du travail et de la famille, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est le centre, on va dire. Il y a cet acteur absolument génial anglais,
Peter Capaldi,
voilà, qui
joue génial dans Torchwood,
voilà, mais ce gars, moi, à chaque fois que je le vois, il m'épate, et il a une de ses têtes en plus qui marque
dans un rôle à mille lieues de celui qu'il a dans Torchwood. C'est impressionnant qu'il arrive à être crédible à ce point en jouant deux partitions qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, quoi.
Il passe de marionnette au mec qui
est marionnettiste, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Il a une faculté à sortir des insanités et des insultes à la seconde. C'est incroyable.
Juste en précision, si vous essayez de la regarder en VO, mettez le sous-titre, parce que c'est ingérable de comprendre, à moins que vous ayez vraiment un très haut niveau d'insultes en anglais, les phrases qui peuvent sortir la moitié du temps. Tellement il y a d'insultes dedans.
Vous allez perdre quelque chose. Si c'est obligé, vous allez passer à côté d'un truc si vous ne le regardez pas, au moins avec des sous-titres anglais. Plutôt avec des sous-titres anglais, d'ailleurs.
Ouais, plutôt avec des sous-titres anglais.
Parce que c'est vraiment... C'est plus que savoureux, quoi.
Ah, c'est juste énorme. En rythme aussi, en débit. Enfin, c'est
fou. Non,
et c'est vrai que c'est assez...
c'est une mitraillette insulte, quoi. C'est incroyable.
C'est assez flagrant aussi. C'est dans cette lignée... de séries politiques, les Anglais avaient d'autres séries, Yes Minister, etc. En plus comique, quoi. Ils ont cette facilité à aborder ces sujets-là, et là, en l'occurrence, en même temps, on est absolument mort de rire, mais le truc qu'il y a derrière est juste dramatiquement réaliste, quoi. C'est fou. Enfin, moi, je me rappelle, ça m'a plus marqué encore sur le film, parce que c'était énorme, quoi, les problématiques au niveau du film, avec les histoires, ou comment avoir une affaire énorme qu'on réussit à couler au niveau de la com et à dissiper complètement, et à, par contre, faire d'un tout petit rien qui était un à côté, un truc énorme qui permet de justifier la démission d'un gars. Enfin, c'est des trucs de...
C'est énorme, c'est faire un grand écart politique, un grand écart qu'on imagine en plus totalement crédible, gérer la petite chose du quotidien et la grande chose qui concerne tout le monde. C'est, voilà, ça s'ancre dans le réalisme, ça l'est, c'est réaliste, mais c'est diablement drôle.
Il y a trois saisons, c'est ça ?
Il y a deux saisons réellement et une saison de spéciaux.
Il y a une saison, les spéciaux, le film et une saison suivante.
Voilà, c'est franchement déjà très compliqué. Regardez bien sur les sites qui référencent les dates de diffusion
pour vraiment s'y retrouver. Quoi. Quand j'ai récupéré les épisodes, à comprendre dans quel épisode, dans quelle heure je suis censé
les voir. Les Britanniques ont sorti le coffret DVD avec ce qu'ils appellent les trois saisons, parce que les spéciaux, du coup, ils considèrent que c'est une saison. Mais ce qu'il y a, c'est pareil, ils ont sorti le coffret, mais pas avec le film inclus. Ce qui fait qu'il ne faut pas oublier que le film est au milieu quand vous les regardez, histoire de suivre.
Au moins un peu l'évolution des personnages.
Oui.
C'est vrai qu'il y a deux cheveux.
Ou de comprendre pourquoi est-ce que c'est plus le même ministre.
Oui. Bon, et par ailleurs, la quatrième saison va arriver dans les prochains mois. Ils vont suivre l'actualité de l'Angleterre qui... Alors ça doit être super compliqué parce que...
Elle est sympa, l'actualité de l'Angleterre.
mais du coup, il y a quelques mois, tout le monde pensait que ce serait les touristes, les conservateurs... qui allait prendre le pouvoir, que c'était un peu plié, quoi. Et finalement, pendant la campagne, on a vu que ça commençait à devenir plus compliqué, c'est soldé par ce qu'on a vu, ce Hung Parliament, et donc cette alliance un peu contre nature entre les conservateurs et les libéraux démocrates. Mais ils avaient anticipé ça, et donc dans la prochaine saison, notre personnage va se retrouver dans l'opposition, dans le shadow government, comme ils appellent ça en Angleterre. Ils vont continuer à coller à l'actualité.
En plein pendant une crise financière jamais vue, se retrouver avec un gouvernement qui potentiellement peut ne pas avancer du fait des conflits internes, écrire une satire politique à ce moment-là, ça doit être un pur bonheur.
Et donc nous allons parler d'une autre catégorie au niveau des remises de prix des BAFTA, c'est celle des mini-séries, donc c'est un peu la télé de prestige anglaise, et il y a beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment vu, dont on n'a pas vraiment entendu parler.
Que beaucoup
cette catégorie va être très vite survolée.
Voilà, mais je vais pitcher en fait parce que...
Voilà, Sullivan Pitch.
Si j'ai eu envie d'en parler quand même, c'est parce que à chaque fois, du coup, j'ai regardé c'était quoi ces projets, je me suis dit, ça c'est vachement intéressant, il faudrait le regarder. Donc voilà, ça vaut le coup de se pencher. Alors les quatre nominés sont d'abord Occupation, une série qui passe sur BBC One, produite par Kudos. Donc Kudos, c'est une de ces grosses boîtes anglaises de production. Voilà. C'est Spooks notamment, mais qui produit beaucoup de bonnes choses. C'est eux qui produisent la série de science-fiction. Là, donc le tournage vient de commencer en Afrique du Sud avec Jamie Bumber de Battlestar Galactica. J'ai perdu le nom de la série, mais voilà. Enfin, donc c'est vraiment une grosse boîte de production sérieuse qui fait des choses haut de gamme. Occupation, en fait, c'est une mini-série en trois parties sur la manière dont trois soldats britanniques sont transformés par leur présence en Irak. Donc Occupation, ça distingue ces soldats qui sont une force d'occupation en Irak. C'est toujours quelque chose qui est assez hallucinant quand on se penche sur les fictions étrangères. Nous, on
a très bien traité de la guerre.
Et nous, on est en ce moment en pleine polémique parce qu'il y aurait un film qui parlerait peut-être de la guerre d'Algérie qui s'est passée il y a 30 ans et ça gênerait certains ministres du gouvernement. Là, les Anglais sont toujours en Irak à l'heure actuelle. Ils sont capables de faire une fiction qui en parle, qui remet ça en cause. Et ils n'ont pas commencé maintenant. Enfin, des choses comme The Mark of Cain, qui date déjà de quelques années, qui est un téléfilm anglais qui avait été primé aux rencontres internationales de télévision qui se passait à Reims. Donc voilà, c'est assez incroyable de voir comment les pays étrangers, notamment les pays anglo-saxons, sont capables de s'approprier l'actualité, l'histoire immédiate en fiction immédiatement, alors que nous, tout de suite, ça tombe dans la polémique débile à cause de certains de nos politiques bas de plafond. Deuxième nominé, Red Riding, une série, une mini-série, là aussi en trois parties, produite pour Channel 4, avec un casting haut de gamme, parce qu'on retrouve Sean Bean du Seigneur des Anneaux et David Morrissey. Projet intéressant, il y a trois épisodes, trois téléfilms qui couvrent trois époques différentes. L'un se passe en 1974, l'autre 1980, l'autre 1983. Et ça parle de la corruption dans le Yorkshire. Franchement, j'ai regardé les bandes annonces, j'ai pas vraiment compris de quoi ça parlait au-delà de ça. Mais ça a l'air super intéressant en fait. Mais c'est juste que c'est le truc qui a l'air un peu dur à pitcher en fait. Parce que les trois histoires vont être plus ou moins interconnectés, enfin, il y a une vraie suite, même malgré le fait que...
Enfin, qu'il y a 10 ans d'écart entre chaque...
Exactement, enfin, mais ça m'a donné envie et je vais regarder ça. Troisième nominé, Small Island. Alors là, c'est la mini-série que j'ai vue, je suis content.
Bravo.
C'est passé sur BBC One, producteur c'est Ruby. C'est un 2x90 minutes qui est passé en décembre, je crois, j'en avais parlé dans un vide-vue. C'est un gros mélo des familles, en fait. C'est adapté d'un roman qui a été traduit en France. C'est Hortense et Queenie, le titre français du roman. C'est un gros mélo des familles, façon les oiseaux se cachent pour mourir. Mais avec une approche intéressante, parce qu'en fait, ça parle de personnages qui viennent de Jamaïque. Et qui ont été... les Jamaïcains ont été enrôlés dans la Seconde Guerre mondiale au sein de l'armée britannique pour les aider au combat. Et donc il y a certains Jamaïcains qui sont sur leur petite île, la Small Island du titre, qui rêvent d'aller dans la grande île, l'Angleterre, et ensuite des personnages qui vont en Angleterre dans les années 50 et qui se frottent à quelque chose qui n'est pas loin de ressembler finalement à l'apartheid américain, avec un racisme assez énorme, etc. Et à côté de ça, c'est vraiment du mélo, c'est une histoire de personnages qui s'entrecroisent mais complètement invraisemblables, de femmes qui se battent contre l'adversité, d'hommes faibles, de maris faibles qu'on n'aime pas, d'amants qui couchent avec tout ce qui bouge, etc. Enfin, voilà, ça va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Ça y arrive en partie. Et c'est un travail intéressant sur les personnages qui sont pas forcément sympathiques, en fait. Qui sont assez travaillés dans leurs défauts. Ça va être des côtés assez sympas, même s'il faut aimer le mélo, quoi. Si vous n'avez pas aimé les oiseaux se cachent pour mourir, n'essayez pas, ça n'y arriverait pas. Moi, je peux être assez client quand c'est bien fait.
Sans dégoûter.
Et enfin, le quatrième nominé, Unforgiven, une mini-série pour ITV, en trois épisodes aussi, c'est produit par Red. Alors ça, c'est une autre des grandes sociétés de production britanniques. C'est notamment les premiers succès de Russell T. Davies, Queer as Folk, Bob and Rose, The Second Coming, ça a été produit par Red. La productrice de Red, c'est Nicola Shindler, voilà, grand nom de la télé anglaise. Elle a produit The Mark of Cain, c'était produit par Red aussi. Mais globalement, si vous avez envie de pencher sur des trucs, mais vous voulez voir des bons trucs, donc vous allez regarder le catalogue de Red et vous êtes sûr de pas trop vous planter, quoi. Unforgiven, ça raconte l'histoire d'une femme qui est libérée en fait après 15 ans de prison. Elle a assassiné deux policiers et donc elle sort de prison sous condition après 15 ans, et on va raconter la difficulté, enfin Unforgiven, non pardonné, Le titre est assez éloquent, ses difficultés de réinsertion dans la société. C'est assez intéressant et ambitieux, ça m'a donné envie de voir ça aussi. Les comédiens, c'est Ruth Slater qui joue le rôle principal, et on retrouve Peter Davison, un ancien docteur, dans les rôles principaux aussi. Voilà, ça m'a donné pas mal envie, ça a l'air intéressant, donc comme quoi que la télévision anglaise a pas mal de petites pépites méconnues sur lesquelles il faudrait qu'on se penche. Et bien écoutez, on va peut-être même essayer de faire ça et vous en reparler d'ici la remise des prix le 6 juin. Voilà.
Comme vous l'aurez compris, Sullivan ne va pas du tout regarder le foot, mais il va de toute façon rien regarder d'autre à part toutes les séries qu'il a en réserve.
Il va même sauter le Tour de France, à mon avis.
Ah, hop, ça devrait pas me poser trop de problèmes.
Aucune compète de sport ne va gêner Sullivan.
Bon, et bien écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus. On se donne rendez-vous dans à peu près un mois, comme d'habitude.
Voilà.
Mais du coup, ben écoutez, on vous donne rendez-vous, on vous dit tout de suite, pour un podcast qu'on va enregistrer depuis le Comic-Con.
Comic-Con.
Voilà.
Comic-Con.
Et du coup, on pourra rendre compte de cet événement avec vous. Bonjour chez vous, à bientôt.
Salut.
À bientôt.